toi, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bienveillance, Seigneur. Merci de nous conduire dans ta parole, par ton Esprit Saint. Que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous attendons que les enfants puissent aller dans les écoles du dimanche pour qu'on puisse commencer la prédication. Voilà, nous lisons dans Luc, au chapitre 23, à partir du verset 33. Luc, au chapitre 23, à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. » S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà ce texte qui nous montre l'amour du Seigneur. Alors que le Seigneur est flagellé, fouetté, maltraité, injurié, on lui fait porter la croix si pesante, il arrive à dire, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » En réalité, Jésus devait souffrir et il avait prévenu ses disciples qu'il faut qu'il souffre, il faut qu'il soit maltraité par les humains. Et d'ailleurs, Pierre lui avait dit, « Mais non, Seigneur, il ne faut pas que cela arrive. » Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Parce que Pierre voulait s'accrocher aux choses de la terre. Il voulait s'accrocher au visible. Il voulait garder Jésus faisant des miracles, prêchant avec autorité. Jésus lui dit, « Non, moi je suis venu pour souffrir et être livré, crucifié, condamné à la place des humains. » Et il est écrit dans Jean 13 que le Seigneur, pour faire ce sacrifice-là, il a beaucoup aimé les humains. Nous lisons ça dans Jean 13 au verset 1er. Jean 13, au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il a aimé les siens c'étaient les autres humains. Jésus qui est Dieu est venu en homme. Et donc désormais les hommes étaient devenus de sa race. C'est pourquoi il est écrit qu'il a aimé les siens. Et il a mis le comble, donc il a mis son amour au maximum. Parce que pour faire un tel sacrifice, pour subir un tel sacrifice, il fallait que son amour soit au maximum. Jésus a tant aimé les humains, il a mis son amour au maximum. C'est pourquoi personne ne pouvait comprendre ça. C'est pourquoi même aujourd'hui, la Bible le dit dans 1 Corinthiens, que l'évangile est une absurdité pour les gens qui se disent intelligents. Parce que dans leur intelligence, ils croient que seule la force gagne. Dans leur tête, ils croient que seule la force triomphe. Or, la Bible nous dit que c'est la faiblesse qui triomphe. Et ça ne marche pas avec le schéma intelligent des humains. Donc, ils acceptent pas, ils comprennent pas lorsqu'on leur dit que Jésus-Christ est venu mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Donc, ils sont dans la logique de la guerre. Donc, on gagne avec les missiles et les armes. Avec la force, c'est là qu'on peut gagner. Donc, si on leur avait présenté un sauveur qui venait sous forme d'un roi, d'un président puissant pour amener un pays à la victoire, ils auraient facilement accepté. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont accepté Hitler. Aujourd'hui, toutes sortes de personnes critiquent Hitler. Mais quand Hitler montait, il y avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup, beaucoup d'amis. Donc, en ce moment-là, ils ont bien accepté un tyran parce qu'ils se disaient, ben voilà, celui qui va redorer le blason terni de l'Europe. Voilà celui qui va restaurer la race aryenne. Voilà, on l'a soutenu, Hitler. Si on ne l'avait pas soutenu, il ne serait pas au pouvoir. Il faut savoir que Hitler a essayé de faire un coup d'État des années auparavant. Ça n'a pas marché. Mais il est rentré au pouvoir par les élections. Les gens l'ont soutenu pour qu'il ait le pouvoir. Il n'est pas venu comme ça, il ne s'est pas imposé, ce n'est pas par un coup d'État qu'Hitler est devenu président. Il y a eu élection et il a gagné parce qu'il avait un discours de Messie. Les gens disaient, mais voilà le Messie de l'Europe, voilà le Messie de l'Allemagne. Parce qu'il promettait une victoire par la force, par l'intelligence. Et les humains aiment ça, ils ne connaissent que ça. Quand on voit les films, c'est cela, avec les héros, Superman, l'homme araignée, tout ce qui peut triompher, tout ce qui peut sauver, est fort, est beau, est costaud. Et dans le schéma humain, il est difficile d'accepter un sauveur qui vient comme un agneau. Jésus a dit... Il est écrit « Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'homme ». Donc, on a besoin de bien comprendre ce qui se passe dans l'homme pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il ne suffit pas qu'on te le dise. Qu'est-ce qui se passe dans l'homme? Parce que si le problème qui était dans l'homme, c'était une domination entre pays, bon, on aurait compris qu'on cherche un Messie qui nous sauve de la libération, qui nous sauve plutôt de la domination d'un pays adverse. Mais le problème de l'humain, ce n'est pas la domination d'un pays adverse, parce que toutes les dominations ont changé avec le siècle, avec le temps. Autrefois, c'est la Grèce qui dominait le monde. Avant même la Grèce, c'était la Perse. Et ensuite, après la Grèce, ça a été l'Empire romain. L'Empire romain aussi a cédé. Aujourd'hui, l'Italie n'est pas considérée comme le pays le plus puissant. Mais à l'époque, c'était l'Empire romain qui était l'empire le plus fort. Donc ce n'est pas un problème de domination. Quand Jésus est venu, c'est parce que l'homme a un problème sérieux en lui. C'est qu'il a ce qu'on appelle la nature de péché. Il a une nature qui le pousse au mal. C'est cette nature-là qui crée les guerres, qui crée les haines, qui crée les divorces, qui crée les dominations, les vols, les cambriolages, qui crée la méchanceté, la jalousie. C'est ça qui détruit l'humanité. C'est ça qui crée le racisme. Ce ne sont pas les lois qu'on peut voter qui peuvent changer cela. D'ailleurs, je suivais hier à la radio, on expliquait que ce n'est pas la vidéosurveillance qui va arrêter les cambriolages ou la délinquance. Donc, ils ont bien fait des études. Ils se sont rendus compte qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de caméras, mais les violences continuent, les vols continuent, les cambriolages continuent. Donc, le problème de l'homme, ce n'est pas son extérieur qui peut résoudre cela. Il faut qu'il change de l'intérieur. Il faut que son cœur change. Le plus grand problème de l'homme étant la relation avec Dieu. L'homme a perdu cette relation parce qu'il a le mal en lui. Il fait des efforts pour se sentir bien. Il fait des efforts pour se créer un bonheur par diverses activités, mais cela ne marche pas. La vraie solution, c'était le pardon. Il fallait que l'homme soit pardonné de ses péchés pour retrouver une communion avec son Dieu. Et quand il retrouve une communion avec son Dieu, la communion avec son Dieu, il est en paix, il est libéré et Dieu fait de lui une nouvelle création. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu souffrir et mourir, être sacrifié à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il est venu mourir pour entrer dans la mort, vaincre la mort, ressusciter d'entre les morts et nous préparer un avenir au ciel. C'est pourquoi il a dit au brigand repentant, il lui a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis » parce que Jésus allait mourir et vaincre la mort qui fait peur tant aux gens et qui les amène dans la tristesse et certains ont décidé de faire carpe diem. Donc c'est un philosophe grec qui a cité ce terme-là pour dire « Réjouissez-vous » manger, buvez, parce qu'un jour, nous mourrons. Donc, et la mort les amène à avoir un comportement lubrique, un comportement sans frein qui les amène dans toutes sortes de difficultés et de souffrances. Le vrai problème de l'homme, c'est qu'il est en train de mourir dans son péché. Et après sa mort dans le péché, il ira en enfer brûler éternellement. Que tu le crois ou pas, c'est ça la réalité. La réalité finit par nous rattraper. Il y a eu un temps où on avait 14 ans, on avait 12 ans. On avait l'impression d'avoir une jeunesse éternelle. Je me souviens quand on avait 9-10 ans, on sortait de la maison le matin après avoir pris le petit déjeuner. Nous rentrions l'après-midi en jouant plusieurs matchs successifs quand c'était pendant les grandes vacances. On changeait de terrain, on faisait un match ici, on finissait, on allait dans un autre terrain, on faisait un autre match, ainsi de suite. Et on semblait infatigable. Et ça semblait éternel. Mais la réalité nous rattrape toujours. Un jour, le corps commence à vieillir et faire 100 mètres devient quelque chose qui t'essouffle. C'est la réalité qui nous rattrape. Les gens ont beau parler, beau discutailler, il y a une réalité, c'est que l'enfer existe. Et pour saisir cela, sur la terre déjà, il y a des situations qui y ressemblent déjà au feu éternel. Il y a des situations, des souffrances, des difficultés sur la terre. Il y a des peuples qui vivent les guerres atroces, même ici en Europe. Il y a des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils m'ont dit qu'ils ramassaient le pain dans les caniveaux. Là où même aujourd'hui, si un paquet de beurre bien emballé tombe, tu ne vas pas ramasser. Mais eux, ils ramassaient. Donc le pain, il a plu. Hein. La pluie est tombée sur le pain. C'est resté là. Mais ils ont ramassé, ils ont mangé. Les gens oublient vite. Tout ça nous montre que si déjà sur la terre, il y a une telle souffrance, en enfer, ça sera comment? Le feu éternel, ça sera comment? Et les gens prennent ça à la légère. Mais revenons sur la terre. Beaucoup de gens cherchent à se trouver leur propre salut. Mais mon message aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne te laisses pas fatiguer et venir à Jésus. Jésus t'aime. C'est ça ma prédication d'aujourd'hui. Jésus t'aime. Est-ce que tu le connaissais avant? Tu ne le connaissais pas. Mais lui, avant même que tu naisses, Il t'a connu à l'avance. C'est pourquoi il y a plus de 2000 ans, il est venu pour être sacrifié, être condamné à cause de ton péché à toi. Parce que nous tous, étant venus d'Adam, nous avons le péché que nous avons hérité et qui nous amène à faire le mal. Et pour cela, Dieu, comme il est juste, il a préparé notre jugement. Mais puisque Dieu, le même Dieu juste, il est aussi amour, il n'a pas voulu que nous nous soyons perdus et ayons en enfer. Il a voulu que nous puissions être sauvés. Et qui c'est qui est venu pour nous sauver? C'est son propre fils, son fils unique, est descendu. Il a pris la forme d'un homme afin d'être condamné à notre place. Ce n'est pas un ange qui pouvait faire cela parce qu'un ange n'est pas un humain. C'est un humain qui devait faire cela. Alors lui-même, le Fils de Dieu, a pris la forme d'un homme afin de souffrir comme un homme, afin de porter toutes les souffrances des humains et à la croix porter leurs péchés et être condamné, crucifié, banni à leur place. C'est pourquoi Jésus à la croix, il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien-aimés, ce ne sont pas des discours obscurs que nous présentons, c'est un discours clair et que toi-même tu peux constater. Regarde en toi-même. Est-ce que tu as le salut en toi? Est-ce que tu te sens réellement rassuré? Certains cherchent à être rassurés en trouvant un travail selon un contrat qu'on appelle contrat durée indéterminée. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont ce contrat-là ne se sentent plus rassurés parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Les entreprises ferment parce que le contrat durée indéterminée, tu es assuré lorsque on est dans des configurations où les entreprises resteront pérennes. Mais aujourd'hui, quelle entreprise on peut assurer que ça ne fermera pas? Et même quand on est dans une bonne entreprise, est-ce que le contrat durée indéterminée créera l'amour dans le cœur de ta femme pour toi ou dans le cœur de ton mari pour toi? Non. C'est des choses que le contrat à durée indéterminée ne peut pas créer. Est-ce que le contrat à durée indéterminée peut enlever la dépression dans la tête de quelqu'un? Non. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont des contrats à durée indéterminée mais qui sont en arrêt définitif à cause de la dépression. C'est parce que l'homme a le mal en lui. Il n'est pas bien. Il tombe dans la dépression. Il tombe dans le mensonge. On a appris récemment qu'il y a un grand joueur français qui joue à Londres. On l'a attrapé dans un trafic de drogue. Vous savez, ces gens-là gagnent environ 150 000 euros la semaine. 150 000 euros la semaine, mais ça n'a pas suffi. Il fallait encore qu'ils se mettent dans le trafic de drogue. Donc c'est pour nous dire quoi? Que l'argent ne satisfait pas. Mais pourquoi on ne se fatigue pas? Vous voyez, nous, dans Luc 23, nous avons deux personnes, il y a une qui a accepté de se fatiguer, elle s'est dit, bon, je suis arrivé à la fin, quoi. Autant abandonner. Vous savez, l'homme est têtu, il veut prouver qu'il s'en sortira tout seul, qu'il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin de ces histoires-là. Je suis un homme, j'ai mes mains. Mais attention, beaucoup ont les mains, mais ils sont dans la dépression. Beaucoup ont des mains et ils se sont suicidés. Et il veut tellement pas l'aide de Dieu qu'il se bat tout seul. Et il y en a qui vont jusqu'au bout. Malheureusement, quand ils seront en enfer, ça sera trop tard. Mais quand tu es vivant, accepte de te fatiguer, reçois l'amour de Dieu. Comment peut-on refuser quelque chose de gratuit et de bon? Je ne peux pas comprendre ça. Imaginez qu'on vienne vous donner 10 millions d'euros gratuitement. Comment vous pouvez refuser ça? Mais ce que Dieu propose, c'est plus grand que 10 millions. C'est la vie éternelle, c'est la relation avec lui retrouvée. Lui qui devient ton père. Pourquoi ne pas se fatiguer? Pourquoi ne pas se fatiguer? Nous lisons dans Luc 23. L'un des malfaiteurs au verset 39 crucifiait l'injurié disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Jésus lui dit, « Aujourd'hui, je vois maintenant que toi tu es fatigué. » Il est écrit dans Matthieu 11, 28 à 30. Lisons dans Matthieu. Nous gardons toujours Luc 23 parce qu'on va y revenir. Lisons Matthieu 11. Je veux lire, parce qu'en général, je cite le verset de mémoire, mais je veux que chacun de nous reçoive le message directement du Seigneur. Matthieu 11, 28 à 30. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. L'homme n'a pas le repos. Il est embêté, il est dérangé. Alors, pour essayer de se créer un faux repos, une fausse joie, il s'est inventé plein de choses. La drogue, la sexualité débridée, l'assurance de l'amour d'une femme ou d'un homme. L'homme cherche à tout prix quelque chose qui va le rassurer. Mais ça ne marche pas, parce que tout ce qui est sur la terre est périssable. Une seule chose est éternelle, c'est la vie que Dieu donne. Et ça ne marche pas. On peut avoir des enfants, ne pas avoir le bonheur. On peut avoir des millions, ne pas avoir le bonheur. À un moment dans sa vie, il faut se laisser fatiguer. Il faut capituler, reconnaître qu'on a perdu la partie. N'attends pas d'avoir 60 ans. Même à 14 ans, même à 12 ans, tu peux reconnaître que tu es fatigué. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si tu es fatigué de te diriger, c'est le moment. Je me souviens de témoignages d'un serviteur de Dieu. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours serviteur de Dieu. Il a dit qu'il était un homme d'affaires. Et un jour, il a rencontré un homme d'affaires chrétien qui lui a dit, « Mon cher, je vais te donner un conseil. Le jour où tu seras fatigué de diriger ta propre vie, j'ai un nom que je te demande de chercher ce jour-là, c'est Jésus. Le jour où ta vie te fatiguera, cherche Jésus. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus, c'est le pompier. Tant que ta maison est bien, tu fais le gros. Tu fais plutôt le costaud, tu fais le fort. Mais le jour où ça va s'agiter, les pompiers sont toujours là. Ils viennent secourir les mauvais et les bons. Même si on apprend qu'un bandit est enfermé quelque part là, la maison brûle, les pompiers viendront toujours. Jésus-Christ viendra toujours. Mais il faut le faire quand on est vivant. C'est pourquoi il faut le faire sans tarder. Cet homme, le premier brigand, il n'a pas voulu se fatiguer. Crucifié! Il a continué à faire le costaud. Nous tous, on pourrait se dire, mais tiens, moi à sa place, je m'humilierai. Je suis déjà crucifié. À quoi ça sert de faire encore l'orgueilleux? Mais c'est mal connaître le péché. C'est mal connaître l'orgueil qu'il y a dans l'homme. L'homme est capable, dans les situations les plus graves, de résister. Et c'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui iront en enfer. Parce qu'on a du mal à concevoir. Moi, je reçois beaucoup de questions dans mon bureau ou ailleurs, des gens qui ont du mal à concevoir que les gens soient assez mauvais pour refuser Dieu. Mais si l'orgueil humain crée une sorte de monde dans la tête de l'homme, Dans son monde, il se croit Dieu, il se croit le plus beau, le plus fort. Je vous ai parlé de Mohamed Ali, alors qu'il n'arrivait pas bien à toucher son nez, parce que les troubles neurologiques commençaient déjà, il est quand même parti combattre, se battre. Parce que dans sa tête, il était le plus beau et le plus fort. Personne ne pouvait le battre. Et il va se battre contre quelqu'un qui a une vingtaine d'années, lui il avait déjà 36 ans. Mais incapable de toucher son nez rapidement. Mais puisque les gens voulaient se faire l'argent sur son dos, il y a des gens qui l'ont encouragé, vas-y. Parce qu'il voulait se faire de l'argent sur son dos. L'homme, dans son orgueil, s'est créé une sorte d'imagination, une sorte de monde dans lequel, lui, il est le plus fort. C'est pourquoi, même quand on lui parle, il est dans ce monde. Mais Dieu permet des événements de la vie qui vont nous fatiguer. Mais si les événements permis par Dieu ne fatiguent plus quelqu'un, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il ne peut rien. Il est obligé de constater, de regarder cet homme se diriger tout seul en enfer dans le feu éternel. Et Dieu en pleure, Dieu souffre, parce que Dieu est amour. Jésus t'aime. Je vois mal pourquoi tu refuses cet amour. Tu gagnes quoi? Jésus ne te demande pas l'argent. Il te demande ta vie. Il veut te sauver. Il veut s'occuper de toi, ensuite t'amener au ciel. Pourquoi résister? Cet homme a résisté jusqu'à la croix. Il dit, mais non, mais sauve-nous si tu te prétends fils de Dieu, mais sauve-nous. Pas d'humilité, même crucifié. Pas d'humilité. Mais l'autre s'est fatigué. L'autre s'est dit, à quoi ça sert de vouloir en continuer à bâtir sa vie alors qu'on est crucifié, à bâtir sa vie tout seul. À quoi ça sert de continuer à résister à Dieu? Il dit, moi je reconnais mes torts. Il dit à l'autre voleur, je reconnais mes torts, mais Jésus, lui, n'a rien fait. Nous, on est des brigands, mais lui n'a rien fait. Je pense que il est là avec nous pour une autre raison. C'est là que l'Esprit de Dieu se révèle à ce brigand pour lui dire, ben, celui qui est à côté de toi, c'est le Fils de Dieu et il peut te sauver. Le monsieur dit, c'est vrai, je suis fatigué. Jésus, sauve-moi maintenant. Quand tu reviendras, ne m'oublie pas. Mon cher, ma chère, il y a un moment dans la vie, il faut se fatiguer pour dire, je n'ai aucune assurance, je n'ai aucune force personnelle. Je crois l'avoir, mais ce sont des choses limitées. Un rien peut balayer ça. Est-ce que vous avez entendu les gens de la catastrophe du Japon de Fukushima? Vous les avez vus à la télé? Toute une ville, des villes qui ont été rasées. Il y a des gens qui ont tout perdu. Ils se retrouvent à la rue avec leurs vêtements de fuite, les vêtements qui sont sur leur corps. C'est tout. Mais ces gens-là, 2 ans avant, on leur dirait, mais attention, ce que vous avez, c'est rien du tout. Ils ne reconnaîtraient pas. L'homme n'est rien. Acceptons de nous fatiguer. Pourquoi résister? Pourquoi continuer à forcer, à se battre tout seul? Pourquoi continuer en croyant que l'argent va te calmer? Il y a des gens qui sont convaincus que l'argent va leur donner le bonheur. Ils sont là à veiller sur l'argent. Ils sont là à veiller sur tous les interrupteurs de la maison pour qu'un seul... Ils ne veulent pas qu'il y ait 1 euro de plus sur la facture. Ils sont là, partout. Ils sont là. Même, ils ont suivi à la radio. Il ne faut pas laisser les appareils en veille. Dès qu'un appareil est en veille, point. Pour 20 centimes d'euros. Ils sont là à vouloir à tout prix, à tout prix. Pendant qu'ils souffrent comme ça, il y a des gens qui ne pensent même pas à tout ça. Ils font ce qui vient dans leur tête. Et ils éteignent quand il le faut. Bon, mais ils ne sont pas perturbés, mais ils n'ont pas une plus grosse facture. Parce qu'en faisant tout ça, il peut se faire que tu oublies un fer toute la nuit. Et ça te rattrape toutes tes vigilances. Donc, c'est compliqué. Puisque vous vous souvenez qu'un jour, vous avez oublié quelque chose. Est-ce qu'on maîtrise les oublis? On ne maîtrise pas. Donc, on peut oublier. Après avoir fait 2 mois de vigilance, tu oublies un jour, toute l'électricité est rattrapée. Donc, vaut mieux se confier en celui qui n'oublie jamais. Se confier en Dieu. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Pourquoi se fatiguer à lutter tout seul, à jouer au costaud, à bosser, parce que tu veux être sûr de tes moyens? Dieu n'est pas contre le travail. D'ailleurs, c'est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, quand on est en relation avec Dieu, Dieu s'en occupe en même temps que nous. De sorte qu'on peut vraiment être dans le repos et dans le bonheur parce qu'on sait qu'on a quelqu'un de grand, de tout puissant qui s'occupe de nous dans tout ce que nous faisons. Pourquoi tu ne veux pas te fatiguer de la haine? Il y a des gens qui ont gardé la haine pour certaines personnes. Cette haine, ça ne te fatigue pas. Il y a des gens qui ont gardé la haine envers leurs parents. Parce que leurs parents auraient été méchants autrefois. Il y a des gens qui ont gardé la haine envers leurs enfants. Parce que leurs enfants les ont déçus un jour. Il y a des gens qui ont gardé la haine envers des cousins, des oncles. Cette haine-là, ça ne te fatigue pas. C'est lourd, la haine. Lorsqu'on rencontre la personne en face, on est comme bloqué, étouffé. La haine, ça étouffe. Alors que l'amour, ça donne l'ouverture, ça donne la paix, ça permet la reconstruction, l'amour. Ça permet une nouvelle vie, l'amour. Mais la haine, ça détruit tout. Est-ce que ça ne te fatigue pas? Puisque je peux vous le dire que la haine et la colère peuvent donner une certaine force, c'est vrai. Mais c'est une force destructrice. Alors que l'amour peut donner l'impression de défaite, de donner l'impression que tu es dans la défaite, ou bien tu es un poltron. Mais tu permets que la vie se manifeste par l'amour. Bien-aimé, c'est le moment de se fatiguer. Il y a des voisins, peut-être, d'immeubles qui nous dérangent, ou des voisins de logements, que ce soit immeuble ou autre. Laissons-nous fatiguer de les haïr. Ce n'est pas bon. Ça nous étouffe la vie. Aimons-les et nous nous sentirons mieux. Aimons-les, puisque Dieu les aime, il veut les sauver. L'amour de Dieu pour les humains est très, très grand. Aujourd'hui, je veux te dire, accepte de te fatiguer, que comme cet homme à la croix, il a dit, je suis fatigué, Jésus, sauve-moi. Reconnais aussi que tu es fatigué de détester. Vous savez, les égoïstes finissent par croire que tout le monde est mauvais. Donc, dans leur tête, ils se permettent de détester et de faire du mal aux autres, en considérant que les autres étant mauvais, eux, ils ont ce droit-là. Mais tu détruis, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui sont convaincus que toute l'humanité est mauvaise. En conséquence, ils ont le droit d'avoir toujours une mauvaise humeur. En conséquence, ils ont le droit de faire les coups bas aux autres. En conséquence, ils ont le droit de ne respecter personne. En conséquence, ils ont le droit de rester enfermés tout seuls dans leur monde. Ce n'est pas bon. Ça détruit. Ça ne produit pas la vie, mais ça produit la mort. Jésus t'aime. Pourquoi tu ne veux pas profiter de cet amour et te réconcilier avec Dieu? C'est le moment de se fatiguer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y en a qui cherchent à se rassurer par la beauté physique. Bien-aimé, en faisant toutes sortes, en entrant dans toutes sortes de systèmes. J'ai vu une émission hier où une femme, parce qu'elle avait maigri un tout petit peu, il y avait une sorte de petite fête en son honneur. Donc elle est partie, on l'a coiffée différemment. Elle a, maigri, je crois qu'elle a perdu peut-être 5 à 10 kilos. Donc les gens étaient là. Tu n'es plus la même, mais oui, mes bien-aimés. Tout ça va passer. Rendez-vous dans 30 ans dans la tombe. Là, on verra vraiment que tu n'es plus la même. Au tombeau avec les fourmis, bien-aimés. J'ai dit, mais vraiment, donc les gens cherchent à se rassurer. Perdre 5 à 10 kilos. Bien-aimés, aller dans une onglerie. Bien-aimés, je ne savais pas que ça existait, une onglerie. Mais je l'ai su il y a une semaine. Quand quelqu'un m'a dit une onglerie, moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est un endroit où on met les ongles. Moi j'ai dit, mais ça existe sur la terre, mais oui, ça existe. Je ne savais pas. Je dis, mais quand tu vas t'ajouter les ongles, c'est pour griffer les gens ou bien pour manger plus rapidement? Déjà, on a du mal à soigner nos ongles qui poussent naturellement. Toi, tu vas en rajouter encore. Peut-être c'est pour éplucher les pommes de terre, bien-aimé. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mais tiens, mais ça existe. On m'a dit, oui, une onglerie. Ah! Qu'est-ce qu'on ne va pas créer, bien-aimé? Et tu vas là, tu payes 70 euros, on m'a dit le prix. 70 euros pour les ongles. Vous imaginez le nombre de kilos de raisins qu'on a avec 70. Raisins, bananes, oranges, tout ça. Bien-aimé, tu manges, tu sens la nature de Dieu, tu manges des raisins, des bananes, tu sais, des fruits, tu te sens déjà au ciel, bien-aimé. Et toi, tu vas dépenser 70 euros dans une onglerie. Et quelques temps après, il faut enlever ces ongles-là, il faut payer encore 70, bien-aimé. Alors qu'il y a des enfants qui souffrent de malnutrition. Je ne suis pas contre la beauté, mais la beauté ne va pas te rassurer. Parce que dans quelques temps, nous nous retrouverons dans la tombe. Où cette beauté ira où? Est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un comme Alain Delon, qui est courtisé par toutes les femmes du monde, mais qui vit tout seul avec ses chiens? Mais c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas tout ça qui compte. Parce que vous voyez quelqu'un comme ça, mais bon, lui, ça ne l'intéresse pas. Il préfère rester avec ses chiens. C'est pour nous dire que le monde, c'est la vanité. C'est rien du tout. Ce qui est bien, c'est Dieu. Dieu te donne la paix, il te rassure, il te porte. Parce que Dieu connaît le secret du bonheur, parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît mieux que toi-même ce qui te rendra véritablement heureux. Bien-aimé, c'est la vérité. Puisque c'est lui qui t'a créé, il sait. C'est les inventeurs de la voiture Renault qui savent quel produit ira le mieux avec leur voiture. Parce que c'est eux qui ont créé cette voiture-là. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'on soit pardonné. Parce qu'on a tous une culpabilité du péché en nous qui nous fait produire des comportements cherchant à couvrir ça. Par exemple, vous allez voir des gens. J'ai vu hier à Intermarché des jeunes qui faisaient la collecte de la nourriture pour la banque alimentaire. Vous voyez des jeunes comme ça, ils vont se dire, bon, pendant que des amis sont en train de jouer ailleurs, de faire n'importe quoi, nous, nous faisons la collecte pour les pauvres. Nous sommes des jeunes, bon. Voilà comment l'homme, dans sa tête, il veut se justifier. Il sait en lui qu'il y a le mal. Maintenant, il veut faire des choses, faire parfois des bonnes actions pour se dire, bon, nous, on est mieux que les autres, donc on est sauvé, on est bon. Mais c'est faux, on ne peut pas être sauvé. C'est comme si tu as le virus du sida, tu commences à faire la banque alimentaire, le virus, il ne va même pas t'écouter pour dire, mais tiens, il fait la banque alimentaire, je vais me tuer tout seul, comme ça il est libre. Non! Tu as le virus du sida, tu commences à appeler les pauvres, tu leur donnes la soupe. Tu crois que le virus va voir ta bonté et s'en aller? Non! Il va même se multiplier. La solution du virus, c'est autre chose. Le péché ne partira pas parce que tu as fait de bonnes choses aux gens. Le péché partira par la solution radicale que Jésus-Christ amène. La crucifixion et la résurrection. Il entre dans ta vie, tu es pardonné. Et tu commences une nouvelle vie par sa résurrection. C'est ce que Jésus te propose. C'est ça la réalité. Il ne faut pas croire que les bonnes actions vont nous sauver. C'est l'humiliation en se repentant, en disant « Dieu, je suis un mauvais. J'ai voulu tout faire par moi-même, mais je suis fatigué. J'ai voulu me rassurer par des bons actes. Mais ça ne change pas, ça me pousse à vouloir toujours en faire pour équilibrer mes mauvais actes. Parce que quelqu'un qui fait la banque alimentaire, il peut le soir frapper quelqu'un, il peut le soir répondre mal à ses parents, même si le matin il a fait la collecte pour les pauvres. Donc le péché est là toujours. Mais si tu viens à Jésus, il change ta vie. Il y a des gens qui ont mis leur espoir dans leur, entre guillemets, foyer. Ils se sont battus pour que leur foyer soit stable. Mais bien aimé, quelques années plus tard, c'est le divorce encore. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas changer parce qu'on lui fait de bonnes choses. L'homme changera si Dieu entre dans sa vie et le transforme. Au lieu de te battre humainement pour ton foyer, amène ton foyer à Dieu. Prie pour ton foyer. Fais en sorte que ton foyer se réconcilie avec Dieu. On n'a pas dit qu'on n'a pas notre part à faire. On a notre part à faire, mais la priorité, c'est la rencontre avec Dieu. Bien-aimés, Dieu nous aime. Jésus nous aime. Et nous allons lire rapidement trois textes qui nous le montrent. Luc 19, comme on est sur Luc. Luc 19, 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toi et moi, nous étions perdus dans nos propres logiques, dans nos propres pensées, dans nos propres erreurs, dans notre orgueil. On était perdus et Jésus-Christ est venu nous sauver. Cet homme était détesté parce que c'était un collecteur d'impôts et il devait être de surcroît malhonnête. Et il était détesté dans la région. Et Jésus-Christ lui dit, « Zachée, je veux aller chez toi. » Mais Zachée n'en revenait pas. Il dit, « Mais comment Jésus peut vouloir aller chez moi ? Pourquoi ? Moi, un homme pécheur, les Juifs n'allaient pas chez les pécheurs reconnus comme tels. » Jésus dit, « Je vais aller non seulement chez lui, mais je vais chez toi. » Et il va là-bas manger carrément. Et les gens voyant cela, ils se sont mis à critiquer en disant, « Mais qu'est-ce que Jésus va chez un homme pécheur ?» Jésus a dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quel que soit le degré de ton mal, Jésus-Christ est venu te sauver. N'hésite pas. Accepte qu'il te sauve aujourd'hui. Quel que soit le degré de ton mal,
il est venu te sauver. Commence une nouvelle vie avec lui. Retrouve ton Dieu, ton Créateur. Zachée était riche, mais il était fatigué. Sa richesse le conduisait à vouloir toujours beaucoup plus de richesses. Quitte à extorquer l'argent des gens. Il a compris que c'était sans fin. C'était sans fin. Nous voyons des milliardaires qui veulent encore des milliards. C'est sans fin. Il a dit, je suis fatigué de cette vie. Prendre l'argent des autres, m'enrichir et je ne change pas. Jésus, sauve-moi. Jésus a lu dans son cœur et il est venu vers lui. Dis au Seigneur, je suis fatigué. Sauve-moi. Sauve-moi de l'orgueil, je suis fatigué. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Cette femme était une prostituée. Dans ces milieux-là, de l'Orient, quand tu es prostituée, c'est comme si tu n'existes plus sur la terre. C'est que tu es moins qu'un déchet, moins que des ordures ménagères. Mais Dieu nous aime. Dieu est venu sauver le plus vil de pécheurs. Il est venu sauver l'homme. Tout à l'heure, nous allons prier que Dieu transforme nos cœurs pour ceux qui sont déjà sauvés, pour que nous puissions aimer les autres comme lui les aime. Jésus n'a pas tenu compte de tout ce que les gens pouvaient dire. Il a vu, c'est le cœur de cette femme qui était fatiguée. Cette femme était fatiguée de continuer avec la prostitution. Elle était fatiguée. Elle a bravé. Normalement, cette femme n'avait pas le droit d'entrer chez Simon, qui était un homme religieux de haute stature. Mais elle s'est dit, ma solution se trouve en Jésus. Pourquoi hésiter ? Je vais aller là où je vais trouver Jésus.
Elle a bravé les regards des humains. Et Simon, l'hôte de Jésus, commençait à critiquer cette femme en disant, mais oui, mais c'est une prostituée, une pécheresse. Mais Jésus la laisse le toucher. Ça ne se fait pas. Il se dit, prophète, il aurait dû discerner qui était cette femme. Jésus dit, Simon, cette femme a fait beaucoup de péchés, mais moi, ce que je veux faire pour l'humanité est plus grand que ce péché à elle. Mon sacrifice est plus grand que le péché de cette femme. Donc, elle peut être pardonnée. Amen. C'est comme si vous dites, ah, mais oui, mais il a beaucoup de dettes. 8 millions d'euros de dettes. Un homme vous dit, mais oui, d'accord. Mais moi, je le prends quand même comme associé. Mais comment tu vas faire avec ces dettes? Moi, j'ai un gros diamant d'un demi-kilo. Ça va résoudre tous les problèmes de dette. C'est cela, bien-aimé. Ça va résoudre tout. Jésus dit, mon sacrifice est plus grand que ses péchés à elle. Donc elle peut être pardonnée aussi. Et elle a été pardonnée. Aujourd'hui, sache que le sacrifice de Jésus est plus grand que ton mauvais cœur, est plus grand que ton péché. Tu peux être pardonné et commencer une nouvelle vie. Jésus t'aime. Il n'y a pas de doute à voir là-dessus. C'est ce doute-là qui t'empêche de lâcher le mal. Tu n'es pas trop sûr. Tu penses que Jésus tient compte de ce que tu as fait pour avoir une relation avec toi. Non. Le jour où tu lui dis que tu es fatigué, il ne tient plus compte de ce que tu as fait avant parce qu'il a payé pour cela à la croix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans le psaume 103. Lisons rapidement avant de lire le dernier passage d'un homme fatigué. Le psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Quel verset encourageant, il ne nous traite pas selon nos péchés. Donc, ça veut dire que quand tu viens dire « je suis fatigué », lui, il voit maintenant la personne que tu vas devenir lorsqu'il va te secourir. Beaucoup ont le doute sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils ne s'approchent pas de lui. Ils continuent leur vie de haine et de colère. Ils continuent leur vie d'égoïsme, de solitude. Mais pourquoi refuser un tel amour? Il ne me traite pas selon mes iniquités. Bien-aimé, on n'a plus le temps. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là, non? Dans Jean 8. Lisons quand même, c'est important. Elle aussi, elle a été dans une position d'épuisement total. Elle, ce n'était même pas la fatigue. Épuisement. C'est-à-dire qu'on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Et les hommes méchants ont voulu faire comme si eux ne péchaient pas. C'est seulement cette femme-là qui avait péché. Cette femme avait non seulement le péché comme fardeau sur sa tête, il y avait la honte et elle devait subir la lapidation. Jean 8, il est écrit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et,
La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te traite pas selon tes iniquités. Parce que moi, Jésus, l'agneau de Dieu, je vais prendre tes péchés à la croix. C'est pourquoi je te traite différemment. Parce que tu es fatigué. Tu n'as plus de secours. Tu es seul. Moi, je viens te secourir. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas que Jésus te guérisse de ton cœur lourd, lourd d'un certain passé? Pourquoi tu ne veux pas être sauvé? Pourquoi tu ne veux pas que Dieu contrôle ta vie? Pourquoi tu veux te battre tout seul, bien-aimé? C'est le moment de se fatiguer et de dire, « Seigneur, je suis fatigué. Maintenant, prends ma vie et gère-moi à partir de maintenant. Je veux me convertir. » Cesse de condamner l'humanité entière. Cesse de condamner les femmes. Cesse de condamner les hommes. Cesse de condamner les enfants. Cesse de condamner les parents. Prends l'amour de Jésus et commence une nouvelle vie. Accepte de te fatiguer. Ne continue plus à te battre tout seul. Jésus t'aime. Il t'aime. Pourquoi passer à côté de cela? Pourquoi? Le Seigneur veut te sauver aujourd'hui. Vous savez, les gens que nous vous avons cités, que ce soit cette femme, les deux femmes, Zachée, c'est des gens qui offusquent même certains qui sont déjà sauvés. Vous savez, il y a des gens qui nous énervent. Il y a des gens qui ne nous donnent même pas envie de prier pour eux. Aujourd'hui, nous allons faire la prière que Dieu nous donne un cœur large de prier pour tous les mauvais, de prier pour tous les gens qui nous énervent. Comme ça, on sera de la nature de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Lui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est ça la réalité. Dieu est amour, il veut sauver. Bien-aimés, lorsque nos cœurs sont bloqués par rapport à certains voisins, nous sommes comme dans une défaite. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement méchants que d'eux jaillissent des rayonnements qui créent en nous aussi la méchanceté. Et si on ne fait pas attention, nous aussi on devient méchants. Mais ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à être bons. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, cyniques, qu'on a du mal à les aimer. Et le diable qui permet ça, les isole davantage, les éloigne davantage du salut. Le diable connaît la puissance de la prière des chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rend certaines personnes tellement mauvaises, tellement méchantes, pour empêcher même la prière. Donc la personne est tellement méchante, tellement mauvaise, que ça ne te vient même pas l'idée de prier pour cette personne. Il te vient seulement l'idée que cette personne ira en enfer. Mais non, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors laissons-nous fatiguer. Accepte que tu es fatigué. La magie, accepte que tu es fatigué de cela.
tous les textes que nous avons lus, est-ce que tu as vu un seul endroit où on a payé Jésus? Mais les voyants,